Chapitre 5. Bienvenue en ville. 1. Deux soirs après leur arrivée dans la baronnie de Mégis, Roland, Cuthbert et Alain poussèrent leur monture sous une arche en adobe au-dessus de laquelle on pouvait lire « Entrez en paix ». Au-delà se trouvait une cour pavée éclairée par des torches. La résine dont on les avait enduites avait été traitée de telle sorte que chaque torche brillait d'une couleur différente. Vert, rouge orangé ou encore un rose grésillant qui évoqua à Roland des feux de Bengale. Il entendait le son des guitares, un murmure de voix, des rires de femmes. L'air fleurait des odeurs qui lui rappelleraient Mégis pour toujours. Sel marin, pétrole et essence de pain. « Je ne sais pas si je vais pouvoir assurer. » marmonna Alain. C'était un gros garçon à la tignasse blonde qui s'échappait dessous son chapeau de bouvier. Alain s'était bien débarbouillé, comme les deux autres, mais n'ayant rien d'un papillon mondain, même au mieux de sa forme, il avait l'air épouvanté. Cuthbert faisait moins piètre figure, mais Roland devinait que le vernis d'insouciance de son vieil ami était des plus superficiels. S'il fallait prendre la direction des opérations à un moment ou à un autre, cela lui incomberait. « Tu t'en tireras très bien, » dit-il à Alain. « Simplement, oh, pour ça !» Et la fière allure, fit Cuthbert, avec un rire nerveux, comme il traversait la cour. Au-delà se trouvait la maison du maire, une hacienda en adobe à plusieurs corps de bâtiment qui semblaient répandre lumière et rire par chacune de ses fenêtres. « Blanc comme un linge, laid comme un... »« La ferme !» fit Roland d'un ton cassant. Le sourire moqueur de Cuthbert disparut instantanément. Roland le constata, puis se retourna vers Alain. « Contente-toi de ne rien boire d'alcoolisé. Tu sais ce qu'il faut dire sur ce chapitre. Souviens-toi aussi du reste de notre histoire. Souris, sois aimable. Montre-toi le plus gracieux qu'il t'est possible de l'être en société. » Rappelle-toi comme le shérif s'est mis en quatre pour nous faire sentir qu'on était les bienvenus. Alain opina, semblant un peu plus rassuré.
En matière de gracieuseté en société, dit Cuthbert, comme eux-mêmes n'en auront pas à revendre, nous ne devrions pas être en reste.
Roland approuva du chef, puis s'aperçut que le crâne d'oiseau était de retour sur le pommeau de la selle de Cuthbert. Et débarrasse-toi de ça! L'air coupable, Cuthbert enfouit la vigie dans sa sacoche de sel. Deux hommes en sandales, vêtus de vestes et de pantalons blancs, s'avançaient en souriant, avec force courbette. « Gardez la tête froide, vous deux, » dit Roland, à voix basse. « N'oubliez pas pourquoi vous êtes ici, et souvenez-vous du visage de vos pères. » Il donna une tape sur l'épaule à Alain, qui avait encore l'air indécis. Puis il se tourna vers les palefreniers. Bonsoir, messire, dit-il. Puissent vos jours être longs sur la terre. Les palefreniers se fendirent d'un large sourire et leurs dents étincelèrent à la lumière extravagante des torches. Le plus âgé des deux s'inclina. Que les vôtres le soient aussi, jeune maître. Bienvenue dans la maison du maire. 2. Le haut shérif les avait accueillis le jour précédent avec autant d'amabilité que venaient de leur en montrer les palefreniers, sinon plus. Jusqu'ici, tout un chacun les avait reçus de la sorte, même les charretiers qu'ils avaient croisés en se rendant à la ville. Et ce seul fait éveilla les soupçons de Roland, l'empêchant de baisser sa garde. Il eut beau se dire qu'il se montrait ridicule, les gens de la contrée étaient à n'en pas douter hospitaliers et serviables. C'était la raison pour laquelle on les avait expédiés ici, parce que Mégis était à la fois à l'écart et loyal à la filiation. Et ridicule, ça l'était probablement, il n'en pensait pas moins qu'il valait mieux rester en éveil et faire montre d'une légère nervosité. Tous trois sortaient à peine de l'enfance, après tout, et si jamais il leur arrivait un pépin par ici, ce serait vraisemblablement pour s'être fié aux apparences. Le bureau du shérif et la prison de la baronnie, logés à la même enseigne, se trouvaient dans Hill Street, avec vue sur la baie. Roland, sans pouvoir en jurer, pressentait que peu ou pas d'ivrognes et autres brutes molestant leurs épouses dans le reste de l'entre-deux-mondes s'éveillaient de leur gueule de bois devant un panorama aussi pittoresque. Une rangée de maisonnettes colorées s'étirait vers le sud, le long des quais où des vieillards et des gamins pêchaient à la ligne, tandis que les femmes raccommodaient voiles et filets. Au-delà, la flottille d'Ambrì allait et venait sur les flots bleus étincelants de la baie, posant ses filets le matin, les relevant l'après-midi. La plupart des habitants de la Grand-Rue étaient en adobe, mais par ici, ceux qui dominaient le quartier des affaires d'Ambrì étaient en briques et aussi trapus que ceux de n'importe quelle venelle du vieux quartier de Gilead. Très bien entretenus, la plupart avaient des portails en fer forgé ouvrant sur une allée ombragée d'arbres. Les toits étaient de tuiles orangées, les volets clos contre la chaleur de l'été. Il était difficile de croire, en arpentant cette rue à cheval, les sabots sonnant sur le pavement balayé, que la partie nord-ouest de la filiation, l'ancienne terre d'Eld, royaume d'Arthur l'aîné, puisse être en flammes et en grand danger de succomber. La prison était une réplique en plus grand de la poste et du cadastre, mais une réplique en plus petit de la salle municipale, exception faite des barreaux aux fenêtres donnant sur le petit port. Le shérif Herr Cabri, un homme pansu en chemise et pantalon kaki de représentant de la loi, avait dû guetter leur arrivée à travers le judas de la porte bardée de fer de la prison, car celle-ci s'ouvrit à la volée avant même que Roland ait pu tourner la sonnette. Le shérif Avery apparut sur le porche, son ventre le précédant comme l'huissier, son honneur le juge au tribunal. Il leur ouvrit grand les bras, les gratifiant d'un accueil des plus chaleureux. Il leur fit un profond salut. Cuthbert confia plus tard qu'il avait craint que l'homme ne perde l'équilibre et ne dégringole du perron, et que dans son élan, il ne continue à dégringoler ainsi jusqu'au port. Leur souhaitant à maintes reprises le bonjour, tout en se tapotant la gorge comme un furieux. Son sourire était si large qu'il semblait fendre son visage en deux. Trois adjoints à la mine d'indécrottables bouseux, vêtus de kaki comme le shérif, se pressaient derrière lui dans l'embrasure de la porte, gobant les mouches. Comment qualifier autrement leur curiosité sereinement affichée et leur regard d'une avidité aussi naturelle? Avery serra la main à chacun des trois garçons, sans cesser ses courbettes. Et Roland eut beau dire, il ne s'arrêta qu'une fois qu'il eut fini et les eut priés d'entrer. Le bureau était d'une fraîcheur délicieuse en dépit du soleil du plein été qui tapait dur. L'un des avantages de la brique, évidemment. En outre, l'endroit était spacieux et plus propre que tous les autres bureaux de shérif qu'avait vu Roland jusque-là, et il en avait visité une bonne douzaine au cours des trois dernières années, ayant accompagné son père dans plusieurs de ses courts périples et lors d'une patrouille plus longue. Il y avait au milieu de la pièce un bureau à cylindres, un panneau d'affichage à droite de la porte, on avait gribouillé encore et encore sur les mêmes feuilles de papier ministre, le papier était une denrée rare dans l'entre-deux-mondes, et dans le coin, au fond, deux fusils derrière une vitrine cadenassée. Il s'agissait d'antiques arquebuses, et Roland se demanda si l'on trouvait encore des munitions pour elle, et tant qu'on y était, si elle pouvait faire feu tout court. À gauche de la vitrine, une porte ouverte donnait sur la prison proprement dite, trois cellules de part et d'autre d'un petit couloir d'où s'échappait une forte odeur de savon de soude. « On a tout récuré pour notre venue », songea Roland amusé. Cela le toucha tout en le mettant mal à l'aise. On a tout nettoyé comme si on était des officiers d'un détachement de cavalerie d'une baronnie intérieure susceptible de se livrer à une inspection sévère et non pas trois garnements accomplissant les corvées d'une punition. Mais qu'avaient de si étranges les attentions nerveuses que manifestaient leurs hôtes à leur égard? Ils venaient après tout de la Nouvelle-Canaan, et les gens de cette contrée retirés du monde pouvaient bien les considérer comme des personnages royaux en visite. Le shérif Avery leur présenta ses adjoints. Roland serra la main à chacun, sans chercher à mémoriser leur nom. Cuthbert était préposé à cette tâche, et il était rare qu'un seul lui échappât. Le troisième adjoint, un bonhomme chauve avec un monocle pendu autour du cou par un ruban, alla jusqu'à mettre un genou à terre devant eux.
« Arrête ça, grand imbécile !» s'écria Avery, le tirant en arrière par la peau du cou. « Ils vont te prendre pour un rusto de première. En outre, tu les as mis dans l'embarras. Ah, pour ça !»«
Laissez !» dit Roland, très embarrassé en fait, même s'il s'efforçait de ne pas le montrer. « Nous n'avons vraiment rien d'extraordinaire, vous savez. »
« Rien d'extraordinaire !» fit Avery avec force éclat de rire.
Son ventre, remarqua Roland, ne ballottait pas comme on s'y serait attendu. Il était plus ferme qu'il n'y paraissait. La même chose pouvait être vraie de son propriétaire.
« Rien d'extraordinaire !» dit-il. « Ils ont parcouru quelques 800 kilomètres depuis le monde de l'intérieur. Ce sont nos premiers visiteurs officiels de l'affiliation depuis qu'un pistolero est passé par la grande route il y a tout juste 4 ans. Et malgré ça, le voilà Tipa qui vient nous dire qu'ils ont rien d'extraordinaire.
« Voulez-vous vous asseoir, les garçons ?
Je peux vous offrir du graff, dont vous voudrez peut-être point si tôt dans la journée, ou même point du tout, étant donné votre âge. » Et si vous voulez bien m'excuser de faire état si crûment de votre jeunesse, car la jeunesse n'est point chose dont on doit avoir honte, puisqu'on a tous été jeunes un jour ou l'autre. Mais j'ai aussi du thé blanc glacé, que je vous recommande cordialement, car c'est la femme de Dave qui l'a fait, et elle est passée maîtresse en matière de tout ce qui est buvable.
Roland regarda Cuthbert et Alain qui opinaient en souriant, tâchant de ne pas paraître complètement largué, avant de reporter son attention sur le shérif Avery.
« Du thé blanc serait une bénédiction pour un gosier desséché, » répondit-il.
L'un des adjoints partit en chercher, des chaises firent leur apparition et furent alignées d'un côté du bureau du shérif Avery, puis on passa à l'ordre du jour.
« Nous savons aussi bien que vous-même qui vous êtes et d'où vous venez, » fit le shérif Avery s'installant sur sa chaise, qui émit une faible protestation sous la masse de son occupant, mais tint bon.
« J'entends l'intérieur dans vos voix, et plus important encore, je le lis sur vos visages.
Néanmoins, ici, à Hambry, on pratique les anciennes façons, tout campagnard et endormi qu'on est. Si fait, on maintient le cap en se souvenant du visage de nos pères, autant que faire se peut. Donc, bien que je compte point vous détourner longtemps de vos devoirs, et si vous voulez bien me pardonner cette impertinence, j'aimerais jeter un coup d'œil sur tout papier ou document de passage que vous pourriez avoir apporté par hasard en ville avec vous. Il se trouvait que, par hasard, ils avaient apporté tous leurs papiers en ville avec eux.
Roland était sûr que le shérif Avery savait pertinemment qu'il le ferait. Il les parcourut plutôt lentement pour quelqu'un qui venait de promettre qu'il ne les détournerait pas longtemps de leurs devoirs, suivant d'un doigt grassouillet le contenu des feuilles soigneusement pliées et d'une texture plus proche de l'étoffe que du papier d'ailleurs, en remuant les lèvres. De temps à autre, son doigt repartait en arrière chaque fois qu'il relisait une ligne. Les deux adjoints restés sur place se tenaient derrière lui, guignant prudemment par-dessus ses vastes épaules. Roland se demanda s'il savait lire.
« William Dearborn, fils de meneur de chevaux. Richard Stockworth, fils de propriétaire de ranch. Arthur Heath, fils d'éleveur de bétail. »
Chaque pièce d'identité était signée par un garant. James Reed, d'Amphill, pour Dearborn, Piet Ravenhead, de Pennilton, pour Stockworth, Lucas Rivers, de Gilead, pour Heath. Tout était en ordre et leur signalement correspondait parfaitement. Les papiers leur furent rendus avec une profusion de remerciements. Roland tendit ensuite à Avery une lettre qu'il tira avec moult précautions de son portefeuille. Avery la mania avec le même soin et ses yeux s'écarquillèrent quand il vit le sceau de franchise qu'elle portait au bas.
« Par mon âme, les garçons, c'est un pistolero qui l'a écrite. »«
Si fait, » concéda Cuthbert, « Saint-Jean l'a berlu. » Roland lui donna un violent coup de pied dans le tibia tout en gardant les yeux fixés avec respect sur Avery. La lettre était d'un certain Stephen Duskane de Gilead, pistolero. Autant dire chevalier, gentilhomme, pacificateur et baron. Ce dernier titre n'ayant pratiquement plus aucune signification par les temps qui couraient, en dépit de toutes les rodomontades d'un John Farson, de la 29e génération, descendant d'Arthur l'aîné en ligne collatérale. En d'autres termes, le rejeton fort éloigné de l'une des nombreuses gueuses d'Arthur. Au maire Arthur Thorin, au chancelier Kimba Rimmer et au haut shérif Herkimer Avery, il présentait ses salutations, recommandant à leur bienveillante attention les trois jeunes gens munis de ce document. Autrement dit, messire Dearborn, Starkworth et Heath. La filiation les avait chargés d'une mission spéciale, à savoir de dénombrer tout matériel et fourniture susceptible d'être d'une utilité quelconque à la filiation en cas de besoin. Le mot « guerre » omis du document rougeoyait entre les lignes. Stephen Duskane, au nom de la filiation des baronnies, exhortait messieurs Thorin, Rimmer et Avery à fournir aux dits compteurs désignés par la filiation toute l'aide requise par leur service et à apporter un soin particulier au recensement de l'ensemble du bétail et des ressources en vivres, ainsi que tous les moyens de transport. Dearborn, Stockworth et Heath demeureraient à Mégis au moins 3 mois, écrivait Duskane, et plus vraisemblablement une année entière. Le document se terminait en invitant tous les officiels concernés à nous écrire au sujet de ces jeunes gens et de leur conduite, et sur tous les points de détail que vous jugerez susceptibles de présenter un intérêt pour nous. Et, priait-on, ne lésinez pas en cette matière si vous avez quelque affection à notre endroit. Dites-nous s'ils sont sages, autrement dit. Dites-nous s'ils ont bien retenu leurs leçons. L'adjoint au monocle revint pendant que le haut shérif prenait connaissance de cette lettre. Il portait sur un plateau 4 verres de thé blanc et s'inclina comme un majordome en le présentant. Roland murmura des remerciements et fit passer les verres à la ronde. Gardant le dernier pour lui, il le porta à ses lèvres et surprit le regard d'Alain posé sur lui. Ses yeux bleus brillaient dans son visage, par ailleurs impassible. Alain agita légèrement son verre pour y faire teinter la glace, et Roland lui répondit d'un mouvement de tête imperceptible. Il s'était attendu à ce que le thé provienne d'un pichet mis au frais près d'une source voisine, mais les verres contenaient de vrais glaçons, de la glace au plus chaud de l'été. Voilà qui était intéressant. Et comme promis, le thé était délicieux. Avery acheva sa lecture et rendit la lettre à Roland avec les égards dus à une sainte relique. « Gardez-la précieusement sur vous, Will Dearborn. Si fait, très précieusement. »« Oui, monsieur, » fit-il en serrant lettre et papier d'identité dans sa bourse. Ses amis, Richard et Alain, firent de même avec les leurs.
« Ce thé blanc est excellent, monsieur, » dit Alain. « Je n'en ai jamais bu de meilleur. »«
Si fait, » fit Avery, sirotant son propre verre. « C'est le miel qui fait toute la différence. Hein, Dave ?»
L'adjoint au monocle, campé près du tableau d'affichage, sourit.
« Je crois, mais Judy n'aime pas en causer, elle tient la recette de sa mère. Si fait, il faut nous rappeler aussi le visage de nos mères, pour sûr. »
Le shérif Avery parut bien sentimental tout à coup, mais Roland se doutait que le visage de sa mère était la dernière chose qu'il eut en tête en ce moment. Avery se tourna vers Alain, et son sentimentalisme fit place à une surprenante perspicacité.
« Vous vous posez des questions sur la glace, messire Stockworth. »
Alain tressaillit.
« Eh bien, je... Vous vous attendiez point à trouver de tels agréments dans un trou perdu comme Hamry, j'en jurerais, » dit Avery.
Et sous le ton railleur de surface, Roland perçut tout à fait autre chose. « Il ne nous aime pas. et pas davantage nos manières de la ville, comme il doit les qualifier à part lui. Il ne nous connaît pas depuis assez longtemps pour savoir en quoi elle consiste exactement, ni même si nous en avons. Mais, d'avance, il est déterminé à ne pas les aimer. Il nous voit comme un trio de morveux arrogants, prêts à les juger, lui et tous les autres, comme une bande de rustres. « Pas seulement à Umbrie, » répondit Alain, paisiblement. « Ces jours, la glace est une denrée aussi rare dans l'arc intérieur que partout ailleurs, Sheriff Avery. Quand j'étais petit, on la réservait exceptionnellement pour les fêtes d'anniversaire et autres du même genre. Il y avait toujours de la glace le jour de l'embrasement, intervint Cuthbert, avec un calme qui le caractérisait fort peu. À part le feu d'artifice, c'était ce qu'on préférait. Vous m'en direz tant, fit le shérif Avery sur un ton stupéfait, très « j'en finirai jamais d'être étonné ». Avery n'aimait peut-être pas leur arriver à l'improviste, ni d'être obligé de leur consacrer une foutue moitié de la matinée, pour reprendre probablement ses propres termes. Il n'aimait ni leurs vêtements, ni leur papier d'identité, ni leur accent, ni leur jeunesse. Leur jeunesse, surtout. Roland pouvait comprendre ça tout en se demandant si c'était bien l'atout. S'il y avait une autre anguille sous roche, quelle était-elle? Il y a un réfrigérateur et une cuisinière à gaz dans la salle municipale, expliqua Avery. Les deux fonctionnent. Il y a du gaz naturel à foison là-bas, à Sidgo, le pétroléum à l'est de la ville. Vous êtes passé devant en venant, j'intuite. Ils firent oui de la tête comme un seul homme. La cuisinière n'est plus qu'une curiosité ces jours. Elle sert de leçon d'histoire aux écoliers, mais le réfrigérateur rend bien des services, si fait. Avery leva son verre et en examina le contenu par transparence. L'été, en particulier. Il sirota une gorgée de thé, claqua des lèvres et sourit à Alain. Vous voyez? Aucun mystère là-dessous. « Je suis surpris que vous n'ayez pas trouvé à utiliser le pétrole, » reprit Roland. « Il n'y a pas de générateur en ville, shérif ?»«
Si fait, trois ou quatre, » répondit Avery.
« Le plus gros, il se trouve au ranch Rocking Bay de Francis Langill. Et je me rappelle quand il marchait encore. C'est un Honda. Ça vous dit quelque chose, ce nom, les garçons? Honda ?» Je l'ai vu une ou deux fois sur de vieilles bicyclettes à moteur, dit Roland. Si fait. En tout cas, aucun générateur ne peut marcher avec le pétrole de Sidgo. Il est trop épais. C'est rien que du goudron gluant. On n'a point de raffinerie par ici.
Je vois, dit Alain.
Quoi qu'il en soit, de la glace en été, c'est un luxe. Peu importe comment elle a atterri dans ce verre. Il fit glisser l'un des glaçons dans sa bouche et le croqua allègrement. Avery le considéra encore un instant pour bien s'assurer que le sujet était clos, puis reporta son attention sur Roland. Si sa face grasse s'éclaira pour la énième fois d'un large sourire peu fiable. Le maire Thorin m'a prié de vous transmettre ses meilleures salutations et ses regrets de ne point se trouver ici aujourd'hui. Notre Lord-Maire est un homme très occupé, pour sûr. Mais il a organisé un banquet qui se tiendra demain soir à la maison du maire, à 7 heures pour le gros des invités, 8 heures pour vous, mes jeunes amis, de façon à faire une rentrée remarquée, j'imagine, histoire d'ajouter un brin de spectaculaire, quoi. Et j'ai point besoin de préciser à des personnes telles que vous qu'ont probablement assisté à plus de fêtes du même genre que j'ai dégusté de repas chauds, qu'il vaudrait mieux arriver pile à l'heure. Ce sera un dîner habillé, demanda Cuthbert mal à l'aise, car nous avons fait une longue route, pas loin de 400 roues, et aucun de nous quatre n'a apporté dans ses bagages ni tenue ni écharpe de cérémonie. Avery émit un petit gloussement, Avec cette fois davantage de sincérité, songea Roland, parce qu'il avait senti peut-être que le dit Arthur venait de faire preuve d'un manque d'assurance et de prétention de bon aloi.
« Nenny, jeune maître, Thorin comprend que vous êtes venu remplir un boulot très voisin de celui d'un cow-boy. La porte à côté, pour ainsi dire. Garde qu'à la prochaine fois, on vous mette pas à tirer les filets dans la baie. »
Dans son coin, Dave, l'adjoint au monocle, barrit d'un fou rire inattendu. Sans doute le genre de plaisanterie qu'il fallait être du coin pour apprécier, songea Roland.
« Mettez vos plus beaux habits, ce sera parfait. Personne ne sera sain d'une écharpe, de toute façon. C'est point la mode à Ambry. »
Une fois de plus, Roland fut frappé par le constant dénigrement de la ville et de la baronnie auquel se livrait en souriant l'individu et que sous-tendait une rancœur tenace contre tout étranger.
« De toute façon, demain soir, vous aurez davantage matière à travailler qu'à vous divertir, j'imagine. »
Art a invité tous les grands rancheros, éleveurs et propriétaires de troupeaux de cette partie de la baronnie. Non qu'ils soient très nombreux, vous le comprenez bien, mais Gis étant situé aux confins du désert, désert qui commence à l'ouest de l'Aplomb. Mais tous ceux dont on vous a chargé de compter les biens et effets seront présents et je pense que vous les trouverez loyaux à la filiation, tout prêts à vous aider avec le plus grand zèle. Je veux parler de Francis Lengill, du Rocking Bay, de John Croydon, du Piano Ranch, d'Henry Vertner, à la fois maquignon au titre de la baronnie et éleveur de chevaux en propre, d'Ash Renfrew, propriétaire du Lazy Susan, le plus gros haras de Mégis, même si j'intuite que ses dimensions soient bien modestes à l'aune de ce à quoi vous êtes habitués, les amis, et d'autres que je nommerai point. Rimmer fera les présentations et facilitera vos affaires comme il faut. Roland approuva du chef et se tourna vers Cuthbert.
Il faudra te surpasser demain soir.
Cuthbert opina.
Ne crains rien, Will.
Je retiendrai leur nom à tous.
Avery sirotait son thé, les épions derrière son verre, avec une expression espiègle d'une telle fausseté que Roland se sentait au supplice.
La plupart d'entre eux ont des filles en âge de se marier et elles les accompagneront. Faudra vous tenir sur vos gardes, les garçons.
Roland décida qu'il avait eu son content de thé et d'hypocrisie pour la matinée. Il acquiesça, vida son verre avec un sourire, espérant in petto qu'il paraissait plus authentique que celui d'Avery à ses propres yeux, et se leva. Cuthbert et Alain calquèrent leur conduite sur la sienne.
« Merci pour le thé et pour cet accueil, » dit Roland.
« Veuillez transmettre ce message au maire Thorin. Nous le remercions de son amabilité et nous le verrons demain à 8 heures précises. »
« Il en sera fait ainsi. »
Roland se tourna alors vers Dave. Le digne homme, grandement surpris d'être pris en considération, eut un mouvement de recul et manqua se cogner la tête contre le tableau d'affichage.
« Veuillez remercier votre femme pour son thé, une vraie merveille. »«
J'y manquerai point.
Grand merci, ça y est. »
Ils regagnèrent l'extérieur, chaperonnés par le haut shérif Avery comme par un chien de berger obèse et bienveillant.
Touchant l'endroit où vous prendrez vos quartiers, commença-t-il alors qu'il descendait les marches puis regagnait le trottoir.
À peine en plein soleil, Avery se mit à suer d'abondance.
« Ma foi, j'ai oublié de vous poser la question, » fit Roland, se frappant le front de la main. « Nous avons établi notre campement au flanc de cette longue pente gazonnée où se trouve une flopée de chevaux. Je suis sûr que vous voyez où c'est. »
« J'y fais. L'aplomb.
Mais... » Nous n'avons pas demandé la permission car nous ne savions pas encore à qui nous adresser.
Ça doit être sur les terres de John Croydon, je suis sûr qu'il vous en voudra point. Mais on vous réserve mieux. Au nord-ouest d'ici, il y a un ranch, le Bar K. Il appartenait à Garber et sa famille, mais ils l'ont abandonné après un incendie et quitté le pays.
C'est à présent la propriété de l'association du Cavalier, qui regroupe des fermiers et des rancheros du coin. J'ai parlé de vous à Francis Lengel, les amis. C'est le président de l'ADC en exercice. Et il m'a fait comme ça... Il n'y a qu'à les mettre dans le vieux Ranch Garber, pourquoi pas?
Oui, pourquoi pas? Tomba d'accord Cuthbert d'un ton doux et rêveur.
Roland lui lança un coup d'œil sévère qui fut perdu car Cuthbert contemplait le port où les petits bateaux de pêche glissaient vivement en tous sens, comme des puces d'eau.
Si fait, exactement ce que je lui ai répondu. Pourquoi pas, en effet.
La demeure a été réduite en cendres, mais le baraquement est toujours debout, tout comme l'écurie et la cambuse juste à côté. Suivant les ordres du maire Thorin, j'ai pris la liberté d'approvisionner le garde-manger, de faire balayer et rafraîchir un brin le baraquement. À l'occasion, vous verrez une bestiole ou deux, mais rien qui morde ou qui pique. Et pas de serpent. À moins qu'il y en ait sous le plancher. Et s'il y en a, mieux vaut les y laisser. C'est ce que je dis toujours. Vous m'entendez, les garçons? Mieux vaut les y laisser.
Mieux vaut les y laisser, cela coulait douce sous le plancher, approuva Cuthbert sans quitter le port des yeux, les bras croisés sur la poitrine.
Avery lui lança un bref regard incertain, son sourire papillotant un tantinet aux commissures. Puis il se tourna vers Roland et son sourire retrouva son éclat habituel.
Il y a point de trou dans la toiture, mon gars. Si jamais il pleut, vous serez au sec. Qu'en pensez-vous? Ça vous paraît convenir?
Mieux que ce que nous méritons. Vous vous êtes montré très efficace, je trouve, et le maire Thorin est bien trop aimable.
Ce qu'il pensait, vraiment.
Le hic était... Pourquoi?
Mais nous apprécions sa prévenance, n'est-ce pas, les amis?
Cuthbert et Alain en convinrent énergiquement.
Et nous acceptons avec reconnaissance.
Avery approuva de la tête.
Je lui dirai. Allez en paix, les garçons.
Ils avaient atteint la barre d'attache des chevaux. Avery distribua une nouvelle tournée de poignées de main tout en détaillant leur monture d'un œil perçant cette fois.
À demain soir, donc, messire.
À demain soir, confirma Roland.
Vous serez capable de trouver le bar K par vous-même, à votre avis?
À nouveau, le mépris tacite et la condescendance inconsciente du bonhomme frappèrent Roland. Et c'était peut-être une bonne chose. Si le haut shérif les jugeait stupides, qui savait ce qui pourrait en résulter?
Nous trouverons, fit Cuthbert montant en selle.
Avery examina d'un œil suspicieux le crâne de corneille qui ornait la selle de Cuthbert. Ce dernier surprit son manège, mais pour une fois resta bouche cousue. Roland fut à la fois stupéfait et ravi de cette réserve inattendue.
Au plaisir de vous revoir, shérif.
Vous aussi, mon garçon.
Il resta campé près de la barre d'attache, gros bonhomme en chemise kaki, aux aisselles marquées par la sueur et aux bottes noires trop bien astiquées pour un shérif dans l'exercice de ses fonctions.
Où est le cheval qui pourrait le porter sur son dos toute une journée à travers les grands espaces de pâturage? Songea Roland.
J'aimerais bien voir la ligne de ce caillouse-là. Avery les salua de la main tandis qu'il s'éloignait. Ses adjoints, le dénommé Dave en tête, vinrent sur le trottoir. Eux aussi agitèrent la main.
3. À peine les blancs-becs de la filiation, chevauchant les coûteuses montures de leur père, eurent-ils tourné le coin pour gagner la grand-rue au bas de la colline, que shérif et adjoint cessèrent d'agiter la main. Avery se retourna vers Dave Hollis, dont l'expression craintive, teintée de stupidité, manifestait soudain une intelligence relative.
Qu'est-ce que t'en penses, Dave?
Ce dernier, portant son monocle à sa bouche, se mit à mordiller nerveusement le cuivre qui le cerclait, manie sur laquelle le shérif Avery ne le chinait plus depuis longtemps. Même Judy, la femme de Dave, avait laissé tomber. Et pourtant, Judy Renfrew, née Vertner, se posait un peu là quand il s'agissait de faire exécuter ses quatre volontés.
« Tout mou !» fit Dave. « Des œufs à peine sortis du cul de la poule. »«
Peut-être !» fit Avery, balançant sa masse énorme, les pouces passés dans sa ceinture.
« Mais celui qui a le plus parlé, celui au chapeau plat, il se prend point pour un mou, lui. »
« Ça compte point pour qui il se prend, » dit Dave, se faisant toujours les dents sur son lorgnon. « Il se trouve à Hambry, maintenant. Va peut-être falloir qu'il adopte notre point de vue. »
Derrière lui, les autres adjoints éclatèrent de rire. Même Avery ne put retenir un sourire. Il ficherait la paix à ses gauches de riches si l'édifice à papa leur fichait la paix. Tels étaient les ordres émanant de la maison du maire, mais Avery devait bien reconnaître qu'il ne serait pas fâché d'en découdre un peu avec eux. Si fait, il se régalerait de flanquer un bon coup de botte dans les couilles de celui au crâne de piaf accroché au pommeau de la selle, qui était resté à le narguer tout au long de l'entrevue, en jugeant Herc Avery trop bête et trop plouque pour ne pas le remarquer. Mais ce qui lui ferait vraiment plaisir, ce serait d'anéantir sous ses coups redoublés le regard froid du garçon à chapeau plat de pasteur et de voir monter dans les yeux de Messire Will Dearborn d'Emhill une crainte fiévreuse au fur et à mesure qu'il comprendrait que la nouvelle Canaan était loin et son Richard de père plus là pour lui prêter main forte.
« Si fait !» dit-il tapant sur l'épaule de Dave. « Il faudra peut-être changer de point de vue. »
Il eut alors un sourire fort différent de toute la panoplie dont il avait gratifié les compteurs de l'affiliation.
« Il leur faudra peut-être à tous tant qu'ils sont. »
4. Les trois garçons chevauchèrent en file indienne jusqu'à ce qu'ils aient dépassé le repos des voyageurs. Un jeune homme, un attardé mental visiblement, aux cheveux noirs et crépus qui en balayait le porche de briques, leva la tête et les salua de la main. Ils lui rendirent son salut. Alors, ils se mirent de front avec Roland au milieu. « Que pensez-vous de notre nouvel ami, le haut shérif ?» demanda ce dernier.
« J'ai pas d'opinion sur la question, » dit Cuthbert gaiement.
« Non, pas la moindre.
Avoir une opinion, c'est faire de la politique, et la politique est un mal qui a causé la pendaison de plus d'un individu encore dans sa prime et belle jeunesse. »
Se penchant en avant, il tapota de ses jointures le crâne de Corneille.
La vigie ne l'a guère apprécié, toutefois. Je regrette de dire que notre fidèle vigie a trouvé que le shérif Avery était un gros plein de soupe, sans un seul os dans tout le corps auquel on puisse se fier.
Roland se tourna vers Alain.
Et toi, messire Stockworth Junior?
Alain s'accorda un temps de réflexion, à son habitude, mâchonnant un brin d'herbe qu'il avait cueilli au passage au bord de la route en se baissant sur sa selle.
« S'il nous trouvait en train de brûler dans la rue, je crois pas qu'il nous pisserait dessus pour nous éteindre, » dit-il enfin.
Cuthbert rit de bon cœur à cette saillie.
« Et toi, Will? Qu'en dis-tu, capitaine de nos cœurs ?»«
Lui ne m'intéresse pas beaucoup.
En revanche, une chose qu'il a dite, oui. »
Étant donné que la pâture pour les chevaux qu'ils appellent l'aplomb fait au moins 30 trous de long sur 5 ou plus jusqu'au désert, comment supposez-vous que le shérif Avery ait su que nous campions sur la parcelle appartenant au Piano Ranch de Croydon?
Ils le regardèrent d'abord avec surprise, puis en faisant des conjectures.
Au bout d'un moment, Cuthbert se pencha en avant et tambourina à nouveau sur le crâne de la vigie.
On était surveillés. « Et tu ne nous l'as pas signalé? Tu seras privé de dîner et la prochaine fois que ça se produit, au cachot !»
Mais avant d'avoir eu le temps d'aller bien loin, les pensées de Roland se détournèrent du shérif Avery au bénéfice de Suzanne Delgado, ce qui était largement plus plaisant. Il la reverrait le lendemain soir, il en était sûr. Il se demanda si elle aurait les cheveux dénoués sur les épaules. Il lui tardait de savoir.
5.
Et à présent, voici qu'ils étaient à la maison du maire.
Que la partie commence, songea Roland, ne sachant pas trop ce que signifiait cette phrase qui lui traversa l'esprit.
Il ne pensait sûrement pas aux Castells, pas encore à ce moment-là. Les palefreniers emmenèrent leurs montures, et, un instant, ils demeurèrent tous trois au pied du perron, se serrant presque les flancs comme des chevaux par gros temps, leur visage imberbe baigné par la lueur des torches. À l'intérieur jouaient des guitares et des éclats de rire s'élevaient en vagues successives. « Doit-on frapper ?» demanda Cuthbert. « Ou simplement ouvrir la porte et entrer ?» Il fut épargné à Roland de répondre. La porte principale de l'hacienda s'ouvrit à deux battants et deux femmes vêtues de robes longues à col blanc qui rappelèrent aux trois garçons celles que les femmes de Bouvier portaient dans la partie du monde d'où ils venaient, apparurent sur le seuil. Leurs cheveux étaient serrés dans une résille faite d'une substance diamantée qui étincelait à la lueur des torches. La plus boulotte des deux s'avança en souriant et leur fit une profonde révérence. Ses pendants d'oreilles, des sourds-feux taillés carrés, semblait-il, dansotaient en lançant les éclairs.
« Vous êtes les jeunes gens de la filiation, sans nul doute. Elle est bienvenue, ça va de soi. Bonne nuitée, messire. Puissent vos jours être longs sur la terre. »
Ils saluèrent à l'unisson, botte en avant, et la remercièrent en un cœur imprévu qui la fit rire et applaudir. Sa compagne, plus grande, les gratifia d'un sourire aussi ténu qu'elle était fluette.
« Je suis Olive Thorin, » dit la boulotte, « l'épouse du maire, et voici Coraline, ma belle-sœur. »
Coraline Thorin, sans se départir de son fin sourire, qui lui plissait à peine les lèvres et n'illuminait absolument pas ses yeux, se fendit d'une révérence pour la forme. Roland, Cuthbert et Alain saluèrent de rechef la jambe tendue.
« Je vous souhaite la bienvenue à Front de Mer, » dit Olive Thorin, dont la dignité était plaisamment modulée par un sourire dénué d'artifice et le ravissement patent dans lequel la plongeait l'apparence de ses jeunes invités du monde de l'intérieur.
« Que la joie vous accompagne dans notre maison, je vous le dis du fond du cœur, si fait. »
« Je n'en doute point, madame, » répondit Roland, « car votre accueil a mis la joie au fond d'une autre. »
Il lui prit la main et, sans calcul aucun, la porta à ses lèvres et la baisa. Son rire charmé le fit sourire. Olive Thorin lui plut d'emblée, et ce fut peut-être une bonne chose qu'il ait rencontré de prime abord une personne de sa sorte, car, à l'exception problématique de Suzanne Delgado, il n'en rencontra aucune autre qu'il apprécia ou à laquelle il fit confiance de tout le reste de la soirée.
6.
Malgré la brise marine, il faisait assez chaud dans le vestibule et le préposé au manteau et cape donnait l'air de n'avoir pas eu beaucoup de pratique. Roland ne fut pas autrement surpris de retrouver l'adjoint Dave dans ce rôle. Il avait plaqué en arrière les quelques cheveux qui lui restaient avec une sorte de gomina et son monocle se détachait à présent sur le plastron immaculé d'une veste de larbin. Roland lui fit un signe de tête. Dave le lui rendit, gardant les mains dans le dos. Deux hommes, le shérif Avery, flanqué d'un sieur d'âge certain, aussi décharné que ce bon vieux docteur mort en personne, s'avancèrent vers eux. Plus loin, dans l'embrasure d'une porte ouverte à deux battants, on apercevait une salle bondée, une foule d'invités s'y pressait, coupe à ponche en cristal à la main, et pécoraient en picorant dans les plateaux qui circulaient. Roland eut juste le temps de lancer un clin d'œil comminatoire à Cuthbert. Mémorise tout, chaque nom, chaque visage, le moindre détail, et ceux-là en particulier. Cuthbert acquiesça d'un discret haussement de sourcils. Puis Roland fut entraîné, bon gré mal gré, dans la soirée, sa première vraie soirée de pistolero en service commandé. Il avait rarement connu plus dur. Le vieux docteur Mort se révéla n'être autre que Kimba Rimmer, chancelier de Thorin et ministre de l'Inventaire. Roland soupçonna que ce titre avait été créé de toutes pièces à leur intention. Il mesurait facilement 10 centimètres de plus que Roland, qui passait pour grand à Gilead, et son épiderme était d'une pâleur cireuse, sans être maladive. Des ailes de cheveux gris fer, aussi fins que des fils de toile d'araignée, voltaient de part et d'autre de sa tête. Il avait le sommet du crâne complètement chauve et un pince-nez en équilibre sur son appendice nasal en forme de buccin.
Chers garçons, leur dit-il, une fois les présentations faites, du ton douceâtre et sincèrement navré d'un politicien ou d'un croque-mort. Soyez les bienvenus à Mégis et à Humbry. Bienvenue aussi à Front de Mer, notre humble maison du maire. Si vous la qualifiez d'humble, de quel émerveillement me remplirait le palais que vos gens construiraient? C'était une observation plutôt plaisante, en demi-teinte, et non un trait d'esprit. Il laissait d'habitude Cuthbert les décocher. Mais le chancelier Rimmer ne s'en esclaffa pas moins, imité par le shérif Avery. Venez, les garçons, dit Rimmer, quand il jugea avoir suffisamment manifesté son amusement. Le maire vous attend avec impatience, j'en suis sûr. Si fait, dit une voix timide dans leur dos. Si Coraline, Sam et Grishon de belle-sœur avaient disparu, Olive Thorin était encore là et ne quittait pas des yeux les nouveaux venus, les mains jointes comme il sied devant ce qui avait dû être autrefois sa taille. Elle les gratifiait toujours de son sourire affable. À vrai dire, Hart meurt d'impatience de vous rencontrer. Dois-je les conduire, Kimba, ou bien... Nenni, ne vous donnez point cette peine avec tous les autres invités dont il faut vous occuper, fit Rimmer. Je crois que vous avez raison. Elle fit une dernière révérence à Roland et ses compagnons. Malgré son sourire persistant et qui ne semblait absolument pas contrefait, Roland ne put s'empêcher de songer « Quelque chose la rend malheureuse, malgré tout. La désespère même, dirais-je. » « Voulez-vous bien me suivre, messire ?» demanda Rimmer, dont le sourire révélait des dents d'une grosseur déconcertante. Passant devant le shérif Hillar, ils entrèrent à la suite de Rimmer dans la salle de réception. 7. Roland ne fut pas, loin de là, écrasé par sa splendeur. Il avait connu, après tout, le grand hall de Gilead, le hall aux aïeux, comme on l'appelait parfois, et avait même assisté en cachette à la grande fête qu'on y donnait chaque année, le dit bal de la nuit de Pâques, qui marquait la fin de la terre vide et l'avènement des semailles. Il y avait 5 lustres dans le grand hall, au lieu d'un seul, comme ici, éclairés par des ampoules électriques et non des lampes à pétrole. Les vêtements des convives, bon nombre étaient de jeunes hommes et femmes dont aucun travail n'avait jamais sali les mains de leur vie, fait que John Farson ne se privait pas de rappeler à la moindre occasion, y était plus somptueux. La musique y était plus ample et plus sonore, et la compagnie composée de lignées plus anciennes et plus nobles et de plus en plus apparentée au fur et à mesure qu'elle remontait à Arthur l'aîné, le héros au cheval blanc et à l'épée unificatrice. Il régnait cependant une certaine animation en ce lieu-ci, et on y trouvait une vigueur qui faisait cruellement défaut à Gilead, et pas seulement lors de la nuit de Pâques. Mais ce que Roland ressentit en pénétrant dans la salle de réception de la maison du maire n'était pas de nature, se fit-il la réflexion, à le regretter vraiment une fois dissipé. Car cela s'évaporait en douceur et de façon indolore, comme le sang d'une veine coupée dans un bain d'eau chaude. La pièce circulaire, à laquelle il manquait de la grandeur pour qu'on la qualifie de hall, était lambrissée et décorée de tableaux, des croûtes en majeure partie, portraiturant les anciens maires. Sur une estrade, à droite des portes menant à la salle à manger, 4 guitaristes au large sourire, en veste tati et sombrero, jouaient un semblant de valse, légèrement pimenté. Au centre, 2 bols à ponche en cristal taillé étaient posés sur une table, l'un énorme et magnifique, l'autre plus petit et plus simple. Le préposé à la délicate opération du transvasement était l'un des autres adjoints d'Avery, en veste blanche. Contrairement à ce que leur avait affirmé le haut shérif la veille, plusieurs hommes étaient ceints d'écharpes de diverses couleurs. Mais Roland ne se sentit pas trop déplacé dans sa chemise de soie blanche, sa cravate lacée noire et son pantalon habillé tuyau de poil. Pour chaque individu ceint d'une écharpe, 3 arboraient le genre de redingote démodée qu'il associait au maquignon endimanché. Roland en voyait aussi beaucoup d'autres, des jeunes en majeure partie, qui n'étaient pas en habit du tout. Certaines femmes arboraient des bijoux, quoiqu'aucun d'aussi précieux que les boucles d'oreilles en sourfeu de Saïthorin, et quelques-unes donnaient le sentiment d'avoir sauté de nombreux repas. Roland reconnut les vêtements qu'elle portait. Robe longue à col rond, d'où dépassaient le plus souvent les volants de dentelle de leurs jupons de couleur, chaussures noires à talons bas et résilles, la plupart diamantées, comme celles d'Olive et de Coraline Thorin. Puis il en vit une dont la différence éclipsait toutes les autres. C'était Suzanne Delgado, bien entendu, tout chatoiement dehors, et presque trop belle à regarder dans une robe de soie bleue à taille haute, dont le corsage à décolleté carré découvrait la naissance des seins. Elle avait autour du cou un pendentif de saphir auprès duquel les boucles d'oreilles d'Olive faisaient toc. Elle se tenait près d'un homme ceint d'une écharpe couleur charbon chauffé à blanc. Ce rouge orangé profond étant la couleur de la baronnie, Roland supposa que l'homme en question n'était autre que le rôte, mais sur le coup le regarda à peine. Ses yeux étaient captivés par Suzanne Delgado, sa robe bleue, sa peau bronzée, les deux triangles colorés, mais d'une nuance trop parfaite pour être due au maquillage, posés sur ses joues, et enfin, sa chevelure, dénouée ce soir, qui lui tombait à la taille en une soyeuse cascade d'or pâle. Il la désira soudainement et pleinement, avec une profondeur de sentiment si désespérée qu'elle en paraissait maladive. Tout ce qu'il était et tout ce pourquoi il était venu ici lui parut accessoire comparé à elle. Se détournant un peu, elle l'aperçut alors. Ses yeux, ils étaient gris, découvrit-il, s'agrandirent à peine. Ses joues se colorèrent légèrement, crut-il distinguer. Et elle entr'ouvrit les lèvres, ses lèvres qui s'étaient posées sur les siennes dans l'obscurité de la route, songeait-il, émerveillé. Puis le voisin de Thorin, grand et maigre comme lui, un moustachu aux longs cheveux blancs qui balayait les épaules de son habit noir, dit quelque chose, et Suzanne se tourna vers lui. Un instant plus tard, le petit groupe qui entourait Thorin riait à gorge déployée, Suzanne comprise. L'homme à cheveux blancs ne les imita pas, se bornant à un fin sourire. Roland, espérant que son expression ne trahirait pas le fait que son cœur battait la chamade, fut dirigé vers ce groupe qui se tenait près des bols de punch. Il sentait vaguement la confédération des doigts osseux de Rimmer l'agrippant au-dessus du coude et un peu plus distinctement le mélange de plusieurs parfums à quoi venait s'ajouter l'odeur du pétrole des lampes et celle de l'océan. Et soudain, sans raison, il se surprit à penser « Oh, mes dieux, je meurs. Je suis en train de mourir. Ressaisis-toi, Roland de Gilead. Cesse de délirer au nom de ton père, du cran. » Il s'y essaya, y parvint jusqu'à un certain point, tout en sachant qu'il serait perdu sans rémission la prochaine fois qu'elle poserait les yeux sur lui. C'étaient ses yeux les responsables. L'autre nuit, dans le noir, il n'avait pas distingué ses yeux couleur de brouillard. « Je ne connaissais pas ma chance, » songea-t-il en grimaçant. « Thorin, notre mère ?» demanda Rimmer. « Puis-je vous présenter nos hôtes des baronnies intérieures ?» Thorin, dont le visage s'éclaira, se détourna de l'homme à cheveux blancs et de la femme qui se tenait près de lui. Moins grand que son chancelier, il était aussi frêle que lui et bâti de bizarre façon. Le haut du corps, court et étroit d'épaule, était posé sur des jambes d'une maigreur et d'une longueur inconcevables. Il faisait penser, se dit Roland, à cette espèce d'oiseau que l'on entrevoit à l'aube piquer une tête dans les marais pour y pêcher son petit déjeuner. « Si fait ! Et comment ? » s'écria-t-il d'une voix forte et aiguë. Nous attendions ce moment avec impatience, je dirais même plus avec grande impatience. Quelle heureuse, fort heureuse rencontre. Bienvenue, messire. Puissiez-vous passer la plus heureuse des soirées dans cette demeure dont je ne suis que l'éphémère propriétaire. Puissent vos jours être longs sur la terre. Roland serra la main osseuse qu'on lui tendait, en sentit craquer les jointures sous sa poigne, guetta une expression de malaise sur le visage du maire et fut soulagé de ne rien y lire de la sorte.
il lui fit un profond salut, la jambe bien tendue. « William Dearborn, pour vous servir, Mère Thorin. Merci de votre accueil et puisse aussi vos jours être longs sur la terre. » Arthur Heath présenta ensuite ses hommages, suivi de Richard Stockworth. Le sourire de Thorin devenait plus radieux à chaque nouveau et profond salut. Rimmer avait beau faire, il était visiblement peu habitué à manifester sa joie. L'homme aux longs cheveux blancs, prenant un verre de punch, le passa à sa compagne sans se départir de son fin sourire. Roland était conscient que tous ceux présents dans la pièce, le nombre des invités avoisinait la cinquantaine, avaient les yeux fixés sur eux. Mais ce qu'il sentait avant tout, lui effleurant la peau comme un doux battement d'aile, c'était son regard à elle. Il distinguait la soie bleue de sa robe, du coin de l'œil, mais n'osait pas la regarder en face davantage.
« Avez-vous connu un voyage difficile ?» s'enquérait Thorin. « Avez-vous couru des aventures et affronté des périls ?»« Vous nous donnerez tous les détails au cours du dîner, j'y tiens, car nous avons peu d'hôtes venant de l'arc intérieur par les temps qui courent. »
Son sourire avide, légèrement béat, disparut, et il fronça ses sourcils broussailleux.
« Êtes-vous tombé sur des patrouilles de Farson ?»«
Non, Excellence, » répondit Roland. « Nous n'ennemis, mon garçon.
Pas d'excellence entre nous, je ne souffrirai pas. Et les pêcheurs et éleveurs de chevaux dont je suis l'humble serviteur ne le souffriraient pas si jamais moi je le souffrais. Tenez-vous-en à Mère Thorin, je vous prie. »«
Merci. Nous avons vu quantité de choses étranges au cours de notre périple, Mère Thorin, mais d'hommes de bien... » Point.
Homme de bien, éructa Rimmer, dont la lèvre supérieure se retroussa en un rictus des plus canons. Homme de bien, ah oui!
Nous voulons tout entendre jusqu'au dernier mot, fit Thorin.
Mais avant que mon impatience ne me fasse oublier les bonnes manières, jeunes gens, laissez-moi vous présenter les personnes qui m'entourent. Vous connaissez déjà Kimba, quant à l'imposant personnage à ma gauche, il s'agit d'Aldred Jonas, le chef de ma garde rapprochée nouvellement créée.
Le sourire de Thorin se teinta momentanément d'embarras.
Je ne suis point persuadé que cela s'imposait, car le shérif Avery avait amplement suffi jusque-là à maintenir l'ordre et la paix dans notre petit coin du monde. Mais Kimba a insisté. Et là où Kimba insiste, le maire n'a plus qu'à s'incliner.
Très sage de votre part, messire, dit Rimmer, s'inclinant à son tour. Et tout le monde ne sait ce qu'a fait, à l'exception de Jonas, dont le mince sourire persista. Il opina du chef.
Ravi, messire, n'en doutez pas, dit-il d'une voix chevrotante et grêle.
Il leur souhaita ensuite à tous trois que leur jour soit long sur la terre, terminant par Roland sa tournée de poignée de main. Sa poigne sèche et ferme n'était absolument pas calquée sur le tremblement de sa voix. Roland remarqua alors l'étrange dessin bleu tatoué sur le dos de la main droite de cet homme entre le pouce et l'index. Ça avait tout l'air d'un cercueil.
« Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, » fit Roland, à qui cela échappa.
C'était une salutation de son enfance, et ce ne fut que plus tard qu'il prit conscience qu'on pouvait l'associer davantage à Gilead qu'à un endroit aussi rural qu'Amhill. Rien d'autre qu'une légère bourde. Mais il commençait à croire que leur marge pour ce genre d'erreur était plus étroite que son père ne l'avait estimé quand il avait envoyé Roland ici pour lui éviter de croiser la route de Martin.
« Les vôtres aussi ?»
fit Jonas, jaugeant Roland d'un œil vif, avec une insistance proche de l'insolence, et sans lui lâcher la main. Puis il le libéra et se recula.
« Cordelia Delgado !» fit le maire Thorin, désignant ensuite du chef la femme qui s'entretenait avec Jonas.
Comme Roland s'inclinait devant elle, il perçut son air de famille avec Suzanne, sauf que la grâce et la générosité du visage de cette dernière étaient comme fripées et pincées sur celui qui lui faisait face à présent. Ce n'était pas là sa mère. Roland devina que Cordelia Delgado était un peu trop jeune pour cela.
Enfin, notre très très chère amie, demoiselle Susan Delgado, termina Thorin, tout en émoi.
Roland supposa qu'elle faisait cet effet à tous les hommes, même à un barbon comme le maire.
Thorin, avec force mouvement de tête et sourire, la pressa d'avancer, l'une de ses mains aux jointures arthritiques au creux de ses reins, et Roland éprouva le poison d'une pique de jalousie. Ce qui était ridicule étant donné l'âge canonique de cet homme et sa charmante et grassouillette épouse, mais nonobstant, il éprouva la chose, et vivement encore. Aussi vivement que l'aiguillon au cul d'une abeille aurait dit corte.
Alors Suzanne releva son visage vers lui, et il plongea à nouveau dans ses yeux. Ayant lu dans quelques poèmes ou nouvelles qu'on pouvait se noyer dans les yeux d'une femme, il avait trouvé ça absurde à l'époque. Il continuait à penser la même chose, tout en admettant que ce fût parfaitement possible. Et elle savait cela. Il perçut de la sollicitude, voire de la crainte dans ses yeux.
« Promettez-moi, si jamais nous nous rencontrons à la maison du maire, que vous ferez comme si c'était la première fois. »
Le souvenir de ces paroles eut un effet dégrisant qui lui clarifia les idées et parut lui donner une vision plus large des choses. Suffisamment en tout cas pour qu'il prenne conscience que la voisine de Jonas, celle qui avait quelques traits en commun avec Suzanne, fixait cette dernière avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Il fit un profond salut, effleurant à peine sa main tendue qui ne portait aucun anneau. Il n'en ressentit pas moins comme de l'électricité entre leurs doigts. À en juger par le léger agrandissement de ses yeux-là, elle avait ressenti la même chose.
« Enchanté de faire votre connaissance, Sai, dit-il.
Ses efforts pour prendre un ton détaché tintèrent faussement à son oreille. Il s'était lancé, cependant, et il eut l'impression que le monde entier les regardait, et il n'y avait qu'une chose à faire, continuer. Il se tapota la gorge à trois reprises.
« Puissent vos jours être longs ?»«
Si fait, les vôtres aussi, messire Dearborn. »«
Grand merci, Sai. »
Elle se tourna vers Alain avec une vivacité frisant la politesse, puis vers Cuthbert, qui la salua, se tapota la gorge, avant de lui dire d'un ton empreint de gravité, « Puis-je me coucher un instant à vos pieds, demoiselle ?»«
Votre beauté m'a mis sur les rotules, mais je ne doute pas que contempler votre visage d'en bas, la nuque pressée contre ce frais carrelage, ne me remette d'aplomb. » Tous éclatèrent de rire à cette saillie, y compris Jonas et Miss Cordelia. Suzanne rougit joliment et donna une tape sur le dos de la main de Cuthbert. Une fois n'étant pas coutume, Roland bénit le penchant invétéré de son ami pour l'épitrerie. Un autre homme vint se joindre au groupe rassemblé près du bol de punch. Le nouveau venu, taillé comme un bloc et à l'étroit dans son habit, avait un teint richement coloré par le plein air plutôt que par la boisson et des yeux clairs nichés dans un réseau de rides. Un ranchero. Roland avait suffisamment chevauché en compagnie de son père pour les reconnaître à l'allure.
« Des filles, à l'appel que vous pourrez en rencontrer ce soir, les gars !» dit le nouvel arrivant avec un sourire des plus amicaux. « Leur parfum va vous griser si vous y prenez point garde. J'aimerais tenter ma chance avant que vous fassiez leur connaissance. Fran Lengil, pour vous servir. » Sa poignée de main était ferme et énergique. Aucun salut ou autre absurde politesse ne l'accompagnait.
Le Rocking Bay m'appartient, ou plutôt c'est moi qui lui appartient, suivant comment on veut voir les choses. Je suis aussi le patron de l'association du Cavalier. Du moins, tant qu'on m'en vire pas. C'est moi qui ai eu l'idée du bar K. J'espère que ça vous botte.
C'est parfait, monsieur, dit Alain.
Propre, sec et de la place pour vin. Merci à vous. Vous vous êtes montré trop aimable.
« Bêtise que ça !» fit Lengil, semblant ravi tout de même, tandis qu'il éclusait un verre de punch.
« On est tous embarqués dans la même galère, mon gars. John Farson n'est qu'un méchant fétu de paille dans la meule de mauvaiseté des temps présents. Le monde a changé, à ce qu'on dit.
Si fait, il a changé, et en bonne voie sur le chemin de l'enfer qu'il est.
Notre boulot, c'est d'empêcher que le foin tombe dans la fournaise autant qu'on peut, aussi longtemps qu'on peut, au nom de nos enfants encore plus qu'à celui de nos pères. « Oyez, oyez !» fit alors le maire Thorin d'une voix qui s'efforçait de tendre au sublime et s'abîmait à la place dans la fatuité. Roland observa que le vieillard décharné agrippait l'une des mains de Suzanne. Mais les yeux rivés sur Langhill, elle semblait ne pas s'en apercevoir. Et soudain, il comprit. Le maire était soit son oncle, soit un cousin germain. Langhill les ignorait tous deux, son attention tournée entièrement vers les trois nouveaux venus, qu'il scruta chacun à son tour pour finir par Roland.
« Tout ce que nous autres, à Mégis, on pourrait faire pour vous aider, mon gars, t'auras qu'à me le demander à moi ou à John Croydon, Ash Renfrew, Jack White, Hank Vertner, à chacun comme à tous. Vous les rencontrerez ce soir, si fait, leurs femmes, leurs fils et leurs filles aussi. Vous aurez qu'à demander. » On a beau être ici à une sacrée trotte du moyeu central de la Nouvelle-Canaan, on n'en est pas moins fortement en faveur de la filiation. Si fait. Très fortement.
Bien parlé, fit tranquillement Rimmer.
Et maintenant, on va porter un toast pour fêter votre arrivée comme il sied, dit Langhill. Vous avez déjà que trop attendu de goûter au punch. Vous devez m'avoir le gosier en sablé.
Se tournant vers les bols de ponche et écartant les chansons de la main, il s'empara de la louche dans le plus grand et magnifique des deux, voulant clairement leur faire l'honneur de les servir lui-même.
« Monsieur Langhill, » dit Roland calmement mais avec une nuance de commandement dans la voix.
Fran Langhill l'aperçut et se retourna. « Le bol plus petit est celui sans alcool, n'est-ce pas ?» Langhill rumina cela, ne comprenant pas d'emblée. Puis il haussa le sourcil. Pour la première fois de la soirée, il parut considérer Roland et ses compagnons non comme des symboles vivants de la filiation et des baronnies intérieures, mais comme des êtres de chair et de sang. Des jeunes gens. De simples garçons, si on allait par là.
Si fait. Si vous vouliez bien avoir l'amabilité de puiser nos punches dans ce bol-là,
Roland sentait tous les yeux fixés sur eux à présent. Les siens en particulier. Il maintint son regard fermement attaché à celui du ranchero, tout en jouissant d'une bonne vision périphérique, et il fut parfaitement conscient que le léger sourire de Jonas avait refait surface. Ce dernier savait déjà de quoi il retournait. Roland supposa que Thorin et Rimmer aussi. Ces rats des champs en savaient plus long qu'il n'aurait dû, et il lui faudrait réfléchir à tout ça à tête reposée. Pour l'heure, c'était le cadet de ses soucis.
« Nous avons oublié les visages de nos pères d'une manière qui n'est pas sans rapport avec notre envoi à Embry. »
Roland eut l'impression inconfortable d'entamer un discours, que ça lui plaise ou non. Il ne s'adressait pas, les dieux soient remerciés de cette petite attention, à toute l'assemblée, mais au cercle restreint d'auditeurs d'origine qui s'étaient passablement étoffés. Cependant, il n'avait pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout et à bon port, maintenant que le bateau était lancé.
Je vous épargnerai les détails, que vous n'attendez pas que je vous fournisse d'ailleurs, mais je dois vous avouer que nous avons promis de ne pas nous autoriser un seul verre de spiritueux pendant notre séjour ici. En guise de pénitence, vous comprenez ?
Son regard, à elle, il pouvait encore le sentir sur sa peau, semblait-il. Il y eut un instant de silence complet au sein du petit groupe qui entourait les bols de punch, puis Langhill déclara
« Votre père serait fier de vous entendre parler avec autant de franchise, Will Dearborn. Si fait. Mais quel gars de bonne trempe ne déplace point un peu d'air et ne fait du tapage de temps en temps ?»
Il frappa sur l'épaule de Roland, et malgré sa poigne ferme et l'apparente sincérité de son sourire, il était difficile de déchiffrer son regard. On ne pouvait faire tout au plus que de vagues conjectures, tapis derrière plusieurs couches de rides.
« Puis-je être fier de vous à sa place ?»«
Oui ?»
fit Roland, lui souriant en retour.
« Je vous en remercie. »«
Moi aussi ?»
dit Cuthbert.
Moi de même, ajouta Alain tranquillement, prenant la coupe de punch sans alcool que lui tendait Lengil, devant lequel il s'inclina. Lengil remplit d'autres coupes et les passa rapidement à la ronde. Ceux déjà servis furent prestement délestés des leurs qu'on remplaça par de nouvelles, pleines de punch sans alcool. Tous les membres du petit cercle une fois servis, Lengil se retourna dans l'intention apparente de porter le toast lui-même. Rimmer lui tapa sur l'épaule, faisant un léger nom de la tête, et lui désigna le maire des yeux. Cet honorable personnage les contemplait d'un œil plutôt rond, la mâchoire quelque peu pendante. Il fit penser à Roland, à un enfant du paradis, passionné par le mélodrame qui se joue sous ses yeux. Ne lui manquait que les pelures d'orange sur les genoux. Lengil surprit le regard du chancelier et acquiesça. Rimmer lança ensuite un coup d'œil au guitariste qui se trouvait au milieu de l'estrade. Il s'arrêta de jouer, imité par ses camarades. Les regards des invités convergèrent vers les musiciens avant de revenir vers le centre de la pièce quand Thorin commença à discourir. Sa voix n'avait rien de ridicule quand il l'employait à l'usage qu'il en faisait à présent. Elle était plaisante à entendre et portait bien. « Gentes dames et messires, mes amis, dit-il, j'aimerais que vous vous joigniez à moi pour souhaiter la bienvenue à nos trois nouveaux amis, des jeunes gens issus des baronnies intérieures, de vaillants jeunes gens qui ont parcouru de grandes distances et bravé maints périls au nom de l'affiliation et au service de l'ordre et de la paix. » Suzanne Delgado reposa sa coupe de punch, retira sa main avec un peu de difficulté de celle de son oncle qui l'étreignait et se mit à applaudir. D'autres convives l'imitèrent, la vague d'applaudissements qui balaya la pièce fut brève mais chaleureuse. Eldred Jonas ne lâcha pas sa coupe pour y prendre part, remarqua Roland. Thorin se tourna tout sourire vers Roland, il leva sa coupe. « Puis-je vous gratifier d'un toast, Will Dearborn ?»«
Si fait, je vous en remercie, » répondit Roland.
Des rires et une salve d'applaudissements accueillirent son emploi de « si fait ». Thorin leva sa coupe encore plus haut. Tous ceux présents dans la pièce firent de même, les cristaux miroitèrent comme des éclats d'étoiles à la lumière du lustre.
« Gentes dames et messieurs, je vous livre William Dearborn d'Emphill, Richard Stockforth de Pendleton et Arthur Heath de Gilead. »
À ce dernier nom, il y eut des murmures et des hoquets surpris, comme si leur mère avait annoncé Arthur Heath du firmament.
Faites échange de bons et loyaux services. Rendez leur séjour à Mégis si agréable que leur souvenance en sera plus agréable encore. Aidez-les dans leur tâche et à faire progresser la cause qui est si chère à nos cœurs. Puisse leur jour être long sur la terre, qu'il en soit ainsi, dit votre mère.
Qu'il en soit ainsi, disons-nous tous, tonnèrent-ils en écho. Thorin but et l'ensemble des invités suivit son exemple. Il y eut encore des applaudissements. Roland se retourna, ne pouvant s'en empêcher, et rencontra encore une fois les yeux de Suzanne. Un instant, elle soutint son regard avec une franchise qui lui permit de s'apercevoir que sa présence la troublait presque autant que lui la sienne. Puis, la femme plus âgée qui lui ressemblait se pencha et lui murmura quelque chose à l'oreille. Suzanne se détourna, composant son visage, tel un masque. Mais il avait surpris le regard de ses yeux, et il songea à nouveau que ce qui était fait pouvait être défait, et ce qui avait été dit pouvait être dédit. 8. Au moment où elle passait dans la salle à manger, où l'on avait installé ce soir-là quatre longues tables à tréteaux, si proches qu'on pouvait à peine se faufiler entre elles, Cordelia tira sa nièce par la main à l'écart de Jonas et du maire qui étaient entrés en grande conversation avec Fran Langhill.
« Pourquoi l'avez-vous regardée ainsi, mademoiselle ?»
chuchota Cordelia, furieuse, le front barré par son pli vertical qui semblait ce soir aussi profond qu'une tranchée.
« quelle mouche a piqué ta jolie tête de linotte ? Tah !
Ce détail suffisait à instruire Suzanne de la colère noire de sa tante.
Regardez qui ? Et comment ?
Sa voix ne l'avait pas trahi, se dit-elle. Mais son cœur, oh, son cœur ! La main qui tenait la sienne resserra son emprise, lui faisant mal.
« Ne jouez point à la finaude avec moi, mademoiselle fraîche et rose. Avez-vous déjà vu cette paire de gambettes faites au moule auparavant ? Dites-moi la vérité. »«
Non, comment l'aurais-je pu ? Vous me faites mal, ma tante. »
Tante Corde eut un sourire sinistre et serra encore plus fort.
Mieux vaut un moindre mal à présent qu'un plus grand par la suite. Réfrénez votre impudence et baissez vos yeux de coquette.
Ma tante, je ne sais point ce que vous...
Je crois bien que si.
La coupa Cordelia sévèrement. Elle poussa sa nièce contre les lambris pour permettre au flot des invités de passer devant elle. Quand le ranchero qui possédait le cottage près du leur les salua, tante Corde le gratifia d'un sourire agréable et lui souhaita bonne nuitée avant de revenir à Suzanne.
Écoutez, mamselle, et écoutez-moi bien. Si j'ai remarqué vos yeux de vache énamourée, vous pouvez être assuré que cela n'a pas échappé à une bonne moitié de la compagnie. Bon. Ce qui est fait, est fait. Mais on s'en tiendra là.
Le temps de ces jeux de femme-enfant est révolu pour vous.
Vous m'avez comprise ?
Suzanne garda le silence, son visage adoptant cet air buté que Cordelia détestait par-dessus tout et qui lui donnait envie de gifler sa nièce jusqu'à lui faire saigner le nez et jaillir les larmes de ses grands yeux de biche gris.
Vous avez fait un serment et passé un contrat. Des papiers ont été signés, on a consulté la sage-femme du Kuros, de l'argent a changé de main. Et vous avez donné votre promesse. Si cela ne signifie rien pour vous, petite, rappelez-vous ce que cela signifierait pour votre père.
Les yeux de Suzanne s'emplirent à nouveau de pleurs, et Cordelia se réjouit de ce spectacle. Son frère, d'une imprévoyance irritante, n'avait été capable que d'engendrer cette femme enfant, bien trop jolie, mais même mort, il avait son utilité. Promettez-moi à présent de garder vos yeux dans votre poche et que si jamais ce garçon fait mine de venir vers vous, vous prendrez le large.
Si fait ! Le plus grand large possible pour éviter de vous trouver sur son chemin.
Je vous le promets, ma tante,
murmura Suzanne. Cordelia sourit. Elle était tout à fait charmante quand elle souriait.
Très bien, alors. Entrons. On nous regarde.
Prends mon bras, mon enfant.
Suzanne se cramponna au bras poudré de sa tante. Elles entrèrent côte à côte dans la salle à manger. Leurs robes bruissaient, le pendentif de saphir étincelait sur la poitrine renflée de Suzanne. Nombreux furent ceux qui remarquèrent leur ressemblance et songèrent combien le pauvre Pat Delgado aurait été heureux de les voir ainsi. 9. Roland était placé au haut bout de la table centrale, ou tout comme, entre Ash Renfrew, ranchero plus mastoc encore que Fran Lengel, et Coraline, la sœur de Thorin, personne plutôt maussade. Renfrew ne s'était pas montré manchot avec le punch. À présent, tandis qu'on apportait le potage sur la table, il se mit en devoir de prouver qu'il ne l'était pas non plus avec Lael. Sa conversation roulait sur la pêche. C'est plus que c'était mon gars, même si on ramène pas autant de poiscailles mutées ces jours dans les filets, c'est point pour autant une bénédiction. Sur l'agriculture, les gens du coin ils peuvent faire pousser presque n'importe quoi, tant qu'il s'agit de blé ou de faillot. et enfin sur ce qui lui tenait clairement le plus à cœur, les chevaux, la chasse à cour et le ranch. Ses activités se poursuivaient, comme toujours, s'y fait, bien que les temps aient été durs dans les baronnies du bord de mer et des prairies depuis plus de 40 ans.
« Mais les lignées ne se clarifiaient-elles pas ?» demanda Roland. Elles avaient commencé à le faire là d'où ils venaient.
Si fait, convint Renfrew, négligeant sa soupe de pommes de terre pour mieux se baffrer de la mêle de bœuf grillée au barbecue. Il les prenait à pleine poignée et les faisait descendre arrosés d'ailes. Si fait, jeune maître, les lignées se clarifiaient merveilleusement bien. Ah, ça oui, 3 poulains sur 5 étaient de bonne aloi, chez les purs sangs comme chez les races les plus communes. Sachez-le, et on pouvait conserver le 4e pour le travail, sinon pour la reproduction. Un seul 1 poulain sur 5 naissait, ces jours, avec des jambes en trop, ou des yeux en trop, ou bien les entrailles à l'air. Et c'est une bonne chose, mais le nombre de naissances était en baisse, si fait. Les étalons avaient toujours autant de raideur dans leurs mousquets, semblait-il, mais plus assez de poudre, ni de balles.
« Je vous demande bien le pardon, dame, » dit Renfrew, se penchant brièvement par-delà Roland vers Coraline Thorin.
Cette dernière lui sourit du bout des dents, sourire qui rappela à Roland celui de Jonas, plongea laborieusement sa cuillère dans le potage et ne répondit rien. Renfrew vida sa coupe d'aile en claquant des lèvres sans retenue et la tendit de rachef. Pendant qu'on la lui remplissait, il se retourna vers Roland.
La situation n'était point bonne comme elle l'avait été autrefois, mais elle pourrait être pire, serait pire, si jamais cet enculé de Farson parvenait à ses fins.
Cette fois-là, il ne prit pas la peine de s'excuser auprès de Cy Thorin.
Il fallait qu'ils se serrent tous les coudes, c'était peu de le dire. Riches et pauvres, grands et petits, tant qu'il pouvait en survenir quelques biens. Et puis il renchérit sur les propositions de Langhill, disant à Roland que lui et ses compagnons n'avaient qu'à nommer tout ce dont ils auraient besoin ou qu'ils désireraient.
« Nous fournir des renseignements devrait suffire, » dit Roland,
« sur nombre de choses. »« Si fait, on n'a jamais vu de compteur sortir sans ces nombres, » tomba d'accord Renfrew en un rire postillonnant de bière.
À gauche de Roland, Coraline Thorin grignota une bribe de verdure. Elle avait à peine touché au bœuf en lamelle et, avec un mince sourire, continua à jouer au petit bateau avec sa cuillère. Roland devinait cependant que ses oreilles n'en perdaient pas une et que son frère aurait un rapport détaillé de la conversation. À moins que ce rapport ne soit destiné à Rimmer, car même s'il était encore trop tôt pour le dire, Roland soupçonnait que Rimmer pourrait bien être celui qui détenait vraiment le pouvoir ici, le partageant peut-être avec Cy Jonas.
« Par exemple, » dit Roland, « combien de chevaux de sel pensez-vous que nous pouvons notifier à la filiation ?»«
La dîme ou le total ?»«
Le total ?»
Renfrew reposa sa coupe et parut se livrer un petit calcul. Roland surprit de l'autre côté de la table un bref échange de regards entre Langhill et Henry Vertner, le maquignon de la baronnie. Ils avaient tout entendu. Et il remarqua aussi autre chose quand il reporta son attention vers son voisin et commensal. Ash Renfrew était ivre, mais pas autant qu'il désirait que le jeune Will Dearborn le crût.
Le chiffre total, m'avez-vous dit, pas simplement celui qu'on doit à la filiation, qu'on pourrait lui expédier à la rigueur.
Oui?
« Eh bien, voyons voir, jeune Cy, Fran a dans les 140 bêtes, John Croydon doit avoisiner les 100, Hank Vertner en possède 40 en propre et s'occupe de 60 autres le long de l'aplomb pour la baronnie, de la viande chevaline pour le gouvernement, messire Dearborn. »
Roland sourit.
« Je sais tout ça, sabots fondus, bas d'encolure, lent, ventre sans fond. »
Renfrew acquiesça en riant aux éclats, mais Roland n'en mit pas moins en doute la jovialité du bonhomme. À Embry, les eaux de surface et les souterraines semblaient couler dans des directions opposées.
Quant à moi, j'ai connu 10, 12 mauvaises années, fièvre cérébrale, same, malandre, escar. À une époque, il y a eu jusqu'à 200 chevaux en liberté sur l'aplomb portant la marque de Lazy Susan. Doit pas y en avoir plus de 80 ces jours.
Roland approuva du chef.
Donc, nous parlons de 420 têtes.
Oh, bien plus que ça,
dit Renfrew, toujours joyeux.
Voulant saisir sa coupe d'aile, il la frappa du revers d'une main rougie par les intempéries et les travaux, et la renversa.
Il la redressa en maudissant le serveur qui tardait à la lui remplir.
Plus que ça,
l'aiguillonna Roland, quand Renfrew fut enfin prêt et paré à relever le coude.
Faut point oublier, messire Dearborn, qu'on est ici dans un pays de chevaux, plus que de poiscailles. On se tait des croupières, les pêcheurs et nous, mais il y a plus d'un racleur d'écailles qu'un bourrin attaché derrière sa baraque, ou dans les écuries de la baronnie, s'il a point de toit pour protéger son cheval de la pluie. C'est son pauvre porc qui s'occupait des écuries de la baronnie.
Renfrew désigna de la tête Susan, assise en face de Roland, à 3 sièges d'écart, juste à l'angle du maire qui présidait, comme de bien entendu. Roland jugea sa présence à cette place des plus singulières, étant donné que la dame du maire avait été reléguée à l'autre bout de la table, entre Cuthbert et un ranchero quelconque qu'on ne leur avait pas encore présenté. Roland supposa qu'un vieux bonhomme comme Thorin préférait avoir à sa main une jeune et jolie parente pour attirer l'attention générale vers lui ou encore pour lui réjouir l'œil. Mais ça ne laissait pas de l'intriguer. C'était presque une insulte à sa propre moitié. S'il était fatigué de sa conversation, pourquoi ne pas lui faire présider une autre tablée?
Ils ont leurs propres coutumes, voilà tout. Et ces coutumes-là ne te concernent en rien. En revanche, le décompte des chevaux farfelus de ton voisin, ça te concerne.
D'après vous, combien y aurait-il d'autres chevaux en liberté au total?
Demanda-t-il à Renfrew. Ce dernier le fixa d'un air finaud. Une réponse honnête reviendra point me hanter, pas vrai, fiston? J'appartiens à la filiation, jusqu'à la moelle que j'y appartiens, et on gravera Excalibur sur ma tombe, probable. Mais je verrai point Umbry ni Mégis dépouillés de tout leur trésor.
Ça n'arrivera pas, Sirail. Comment pourrions-nous vous forcer à nous livrer ce à quoi vous ne consentiriez jamais?
Toutes nos forces sont engagées au nord et à l'ouest contre l'homme de bien.
Renfrew réfléchit à cette observation, puis opina du chef.
Ne m'appellerez-vous jamais Will?
Le visage de Renfrew s'éclaira. Avec un signe d'assentiment, il lui tendit la main une seconde fois. Avec un large sourire, il vit Roland la serrer entre les deux siennes, cette fois. Poignée de main dessus-dessous, fort prisée des meneurs de chevaux et des cow-boys. « Nous vivons des temps mauvais, Will, qu'engendrés de mauvaises manières. Je dirais qu'à mon avis, il y a probable entre 150 chevaux dans Mégis et alentour. Des bons, j'entends. »
De première bourre.
Renfrew approuva, tapant dans le dos de Roland avant d'ingérer une imposante lampée d'ale.
De première bourre, si fait.
Au haut bout de la table où ils étaient assis éclatèrent des rires. Jonas avait apparemment dit quelque chose de drôle.
Susan riait sans retenue, la tête renversée en arrière, les mains serrées sur le pendentif de saphir.
Cordelia, assise entre la jeune fille à sa gauche et Jonas à sa droite, riait elle aussi.
Thorin, absolument tordu de rire, se balançait d'avant en arrière sur sa chaise, se frottant les yeux d'une serviette. « La jolie fille que voilà !» fit Renfrew avec une quasi-vénération.
Roland aurait juré qu'un léger bruit, un « pfff » féminin, avait été émis par sa voisine. Lui jetant un coup d'œil, il aperçut Scythe Thorin se débattant toujours avec son potage. Il reporta son regard vers le haut bout de la table.
Le maire et son oncle, son cousin, peut-être? Demanda Roland.
Ce qui arriva ensuite se grava avec une très grande netteté dans sa mémoire, comme si quelqu'un avait soudain rehaussé les couleurs et amplifié les sons ambiants. Les guirlandes de velours derrière la tête de Suzanne parurent soudain d'un rouge plus violent. Le rire croissant de Coraline Thurin s'apparenta au craquement d'une branche de bois mort sous le pied. Il était suffisamment fort pour faire cesser les conversations alentour et attirer tous les regards, songea Ronald. Mais seuls Renfrew et les deux rancheros assis de l'autre côté de la table parurent s'en apercevoir.
« Son oncle !»
C'était pour elle le premier échange de la soirée.
« Son oncle, elle est bien bonne celle-là, hein, Rennie ?»
Renfrew ne répondit rien, se contentant de repousser sa coupe d'aile et attaquant finalement son potage.
« Vous me surprenez fort, jeune homme, si fait. Vous avez beau venir de l'intérieur, bonté divine, je dirais que quiconque s'est chargé de vous apprendre les usages du monde réel, celui qui se trouve ni dans les livres ni sur les cartes, s'est arrêté un poil trop tôt. » C'est ça,
suivit un mot si lourdement dialectal que Roland ne le reconnut pas. À l'oreille, on aurait dit si fine, à moins que ce fût chivine.
Plaît-il ?
Il souriait, mais d'un sourire qui devait être d'une froideur et d'une fausseté à tout craint, lui parut-il. Il avait un poids sur l'estomac, comme si le punch, le potage et l'unique lamelle de bœuf qu'il avait mangé par politesse ne formaient plus qu'une boule. Il lui avait demandé « Êtes-vous une servante » sous-entendant par là « Servez-vous à table » Peut-être servait-elle, mais selon toute apparence, dans une pièce bien plus privée que celle où il se trouvait. Il ne voulut soudain plus rien entendre, la signification du mot qu'avait employé la sœur du maire n'avait plus le moindre intérêt pour lui. Une autre crise de fou rire secoua le haut de la table. « Suzanne ?» Les joues congestionnées, les yeux étincelants, riaient à gorge déployée. Une bretelle de sa robe avait glissé le long de son bras, dévoilant le tendre creux de son aisselle. Comme il la regardait, le cœur plein de crainte et de désir, elle la remit en place d'un geste machinal.
« Ça signifie... tranquille petit bout de femme !» dit Renfrew, visiblement mal à l'aise. C'est un ancien terme qu'on n'emploie plus guère ces jours.
« Tais-toi donc, Rennie !» lui intima Coraline Thurin, qui ajouta, se tournant vers Roland,
« C'est rien qu'un vieux cow-boy. Il ne peut jamais s'empêcher de pelleter du crottin, même quand il est loin de ses bourrins bien-aimés.
Chivine veut dire épouse de seconde main.
Du temps de mon arrière-grand-mère, ça signifiait une putain, mais d'une certaine catégorie. »
Elle fixa Suzanne de ses yeux délavés. Cette dernière sirotait de lait à présent, puis se retourna vers Roland. Elle avait dans le regard une lueur d'amusement sinistre que Roland ne prit à guère.
La catégorie de putain qu'on paye en espèces sonnantes et trébuchantes, la catégorie trop bonne pour le simple chaland.
C'est sa gueuse ? Demanda Roland. Les lèvres comme frottées de glace.
Si fait, dit Coraline. Point encore consommé, pas avant la moisson.
Ceux qui ne seront point très heureux, mon frère, je vous le garantis, mais achetez et payez, tout comme dans l'ancien temps, assurément. Coraline marqua un temps d'arrêt avant d'ajouter.
Son père en mourrait de honte s'il pouvait l'avoir.
Elle s'exprimait sur un ton de satisfaction mélancolique.
Je crois qu'il faut point juger le maire trop durement, fit Renfrew d'un ton pontifiant et embarrassé.
Coraline l'ignora. Elle observait le profil de Suzanne, le doux renflement de sa poitrine au-dessus de la ganse de soie du corsage, la masse dénouée de ses cheveux. Toute trace d'humour avait disparu du visage de Coraline Thurin, remplacé par une sorte de mépris glacial. En dépit de lui-même, Roland se retrouva à imaginer les mains tout en jointure du maire en train d'abaisser les bretelles de la robe de Suzanne, de ramper sur ses épaules nues et de plonger comme des crabes grisâtres dans sa chevelure. Il tourna les yeux vers l'autre extrémité de la table et ce qu'il y vit n'était guère plus réjouissant. Olive Thorin, qu'on avait reléguée en bout de table, dévisageait les rieurs assis à l'opposé d'elle. Elle ne quittait pas des yeux son mari, qui, non content de l'avoir remplacé par une belle jeune fille, lui avait fait don d'un pendentif qui démodait ses propres boucles d'oreilles en sourd-feu par comparaison. Mais son visage ne reflétait ni haine, ni mépris colérique comme celui de Coraline. La regarder en aurait été facilité, si tel avait été le cas. Elle fixait simplement son mari avec humilité, chagrin et confiance. À présent, Roland comprenait pourquoi il l'avait trouvée triste. Elle avait toutes les raisons de l'être. Le groupe autour du maire se mit à rire de plus belle. Rimmer, de la table voisine qu'il présidait, s'était penché vers eux pour les gratifier d'un bon mot. Il avait dû être particulièrement bon. Car cette fois, même Jonas riait. Suzanne, une main posée sur sa poitrine, prit sa serviette et s'en tamponna le coin de l'œil où perlait une larme de gaieté. Thorin recouvrit son autre main de la sienne. Elle tourna les yeux en direction de Roland, toujours rieuse, et rencontra son regard. Ce dernier songeait à Olive Thorin, assise en bout de table, avec le sel et les épices, un bol de potage qu'elle n'avait pas touché devant elle, et ce sourire malheureux aux lèvres. Assise là où la jeune fille pouvait la voir de même. Et il songea que, s'il avait été armé de ses revolvers, il aurait dégainé et logé une balle dans le cœur de pierre de cette petite pute de Suzanne Delgado. Avant de se dire, qui espères-tu tromper? Puis l'un des serveurs déposa un plat de poisson devant lui. Roland n'avait jamais eu aussi peu faim de sa vie. Mais il n'en mangeait pas moins, de même qu'il retournait dans son esprit les questions soulevées par sa conversation avec Ashwin Fu du ranch Lazy Susan. Il se souviendrait du visage de son père. Pour ça, oui, je m'en souviendrai très bien, se dit-il. Si seulement je pouvais oublier celui que je vois au-dessus de ce saphir, là-bas. 10. Le dîner n'en finissait pas, interminable, traînant en longueur. Nul moyen de s'échapper non plus par la suite. On avait retiré la table qui se trouvait au centre de la salle de réception, et quand les convives y retournèrent, tel le reflux d'un mascaret, ce fut pour y former deux rondes adjacentes sous les directives d'un sémillant petit homme roux, que Cuthbert devait affubler par la suite du titre de ministre des Ris et des Jeux du maire Thorin. L'alternance fille-garçon, fille-garçon, fille-garçon dans chaque ronde se mit en place avec force, rire et difficulté. Roland supputa que deux tiers des invités étaient maintenant bien beurrés, puis les guitaristes attaquèrent une caissa. Ce qui se révéla une sorte de reel. Les rondes tournaient en sens inverse jusqu'à l'arrêt momentané de la musique. Les couples formés alors par le point d'intersection des deux rondes venaient danser au centre du cercle de la cavalière, au milieu des vivas et des battements de mains du reste des participants. Le musicien-chef supervisait cette vieille tradition, apparemment fort goûtée, avec une propension au ridicule. Il arrêtait ses muchachos de manière à former les couples les plus drôlatiques, une grande avec un petit, une grosse avec un maigrichon, une vieille avec un jeune. Cuthbert se retrouva ainsi appareillé à une cavalière qui aurait pu être son arrière-grand-mère, saluée par les caquettements cacochimes de la saille et les rugissements d'approbation de la compagnie. Puis, au moment même où Roland se disait que cette danse stupide n'en finirait jamais, la musique s'arrêta et il se retrouva face à face avec Suzanne Delgado. Un court instant, il ne put rien faire d'autre que la fixer, avec la sensation que ses yeux allaient lui jaillir de la tête et ses pieds refusaient stupidement de bouger. Puis, Suzanne leva les bras, la musique démarra, ceux qui faisaient la ronde, au nombre desquels le maire Thorin et le vigilant Ed Jonas, au fin sourire, applaudirent, et il l'entraîna dans la danse. Au début, tout en lui faisant décrire une figure tournoyante, ses pieds se mouvant avec leur grâce et leur précision habituelle, engourdis ou pas, il eut l'impression d'être vitrifié. Puis, Il prit conscience du corps de Suzanne contre le sien, du bruissement de sa robe, et il ne fut que trop humain à nouveau. Elle se rapprocha de lui un bref instant, et quand elle parla, il sentit son souffle lui chatouiller l'oreille. Il se demanda si une femme pouvait vous rendre fou, au sens littéral du terme. Il ne l'aurait pas cru jusqu'à ce soir. Mais ce soir, tout avait changé.
« Merci de votre discrétion et de votre bienséance, » chuchota-t-elle.
Il se détacha légèrement d'elle tout en la faisant virevolter, sa main au creux de ses reins, sa paume reposant sur la fraîcheur du satin, ses doigts effleurant la tiédeur de sa peau. Suzanne calquait ses pas sur les siens sans trébuchement ni hésitation. Elle évoluait avec une grâce parfaite. Ses petons chaussés de pantoufles de soie fragile n'étant pas le moins du monde effarouchés par ses grands pieds bottés.
« Je sais me montrer discret, Sai, » répondit-il.
« Quant à la bienséance, je suis étonné que vous connaissiez ce mot. » Elle leva les yeux vers son visage empreint de froideur, et son sourire s'évanouit. Il vit un éclair de colère lui succéder, mais surtout qu'elle était blessée comme s'il l'avait frappée. Il en fut heureux et navré à la fois.
Pourquoi me parler ainsi ? Murmura-t-elle.
La musique s'interrompit avant qu'il ait pu lui répondre, bien qu'il n'eût aucune idée de la réponse qu'il aurait pu lui faire. Elle lui fit une révérence et lui un salut, tandis qu'autour d'eux éclataient sifflements et applaudissements. Ils reprirent leur place dans leurs rondes respectives et les guitares repartirent de plus belle. Roland, les mains prises de chaque côté, se remit à tourner en rond. Rire, taper des pieds, battre des mains suivant le tempo, la sentir quelque part dans son dos en train de faire la même chose que lui, se demander si elle désirait aussi fortement que lui être loin d'ici, dans le noir, se retrouver solitaire dans l'obscurité afin de tomber un masque et de se laisser consumer par son visage en feu.